Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, de notre émission unique aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a pas de match, ça fait des vacances aux joueurs et à tout le monde et nous serons là uniquement dans cette édition. La CAN s'arrête deux jours, disons, et nous allons en profiter pour voir ce qui se passe donc ailleurs sur la planète football avec les Brésiliens en finale de la Copa América, de leur Copa América. Sans Neymar, mais avec un super Dani Alves, ils ont hier éliminé les Argentins. Une nouvelle déconvenue pour Lionel Messi qui a bien du mal à digérer l'élimination de son équipe. Les arbitres étaient-ils contre l'Argentine? Neymar se prépare-t-il à retourner jouer en Catalogne? La presse alimente le feuilleton qui fait la une en France et en Espagne. Mais le PSG le laisserait-il partir? Et pourquoi le Brésilien veut-il retourner au Barça? Enfin, nous évoquerons les Grenadiers d'Haïti, loin de la finale de la Gold Cup. Et pourtant, ils ont bien failli éliminer les Mexicains, mais l'exploit est là et le futur sourit à l'équipe nationale de l'île caribéenne, si chère à notre réfé. Bonjour Alejandro. Bonjour Valente. Annie. Alejandro Valente s'est pris de passion pour l'équipe des Grenadiers.
Il y a de belles plages.
Oui, c'est une drôle d'île en tout cas. On sait qu'on est très écouté de ce côté du monde.
En plus, ici, on ne dit pas le Haïti comme certains commentateurs disent le Madagascar.
N'est-ce pas?
On est cultivé.
On
ici.
A appris. Voilà. Dominique Sévrac, bonjour.
Oui, bonjour. Quand c'est vacances de football, je suis là, moi.
Oui, hein, n'est-ce pas? Pour parler d'un autre football. Alors, Patrick Juillard, il a survécu à cela. Bonjour, Patrick
bonjour
Juillard.
Bonjour, Annie. Bonjour à toutes
notre
et à tous.
Notre camarade du site Foot 365 Afrique, alors que, Dominique, vous êtes du Parisien. Et puis, Carlos Bianchi. Bonjour, Carlos.
Bonjour à tous. Mais aujourd'hui, il y a un match de foot.
Oui, encore.
Pays-Bas, Suède.
Oui, il y a tout le temps des matchs, vous avez
et
remarqué.
Et ça joue pas mal.
Vous aimez les filles? Radio Foot, c'est parti.
Mais, il me manque que j'aime les gars.
Une petite échappée quand même vers le football africain. Vous reconnaissez notre générique de la CAN. La CAN est donc sur pause. En Égypte, le premier tour est fini et les affiches des huitièmes de finale sont au complet. Depuis la soirée d'hier soir, j'espère que vous nous avez suivis et regardés. Il y avait tous les résultats dans Radio Foot International. En tout cas, les grandes équipes sont du continent africain sont au rendez-vous. J'aimerais vous demander, Dominique Sévrac, vous suivez la CAN?
Un petit peu, de loin. Hein, parce que moi,
vous
je
suivez
suis dans... j'ai une actualité, oui, le capitaine du Cameroun, mais j'ai une actualité transfert importante et j'étais sur la Coupe du Monde féminine.
En plus.
Et donc, à un moment donné, il faut faire des choix.
Oui, oui, hier, on avait trois matchs en même temps sur l'antenne parce qu'il y avait trois matchs qui se déroulaient en même temps, deux en Égypte.
J'ai choisi les femmes, j'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Et c'était bien?
C'était très bien.
Carlos, vous la regardez, cette
oui,
Coupe
moi,
d'Afrique?
Oui, moi, je regarde des matchs parce qu'il y a des fois des équipes, des pays que je ne connais pas vraiment. Et je vous dis la vérité, j'ai regardé un petit peu Madagascar-Nigeria. J'aurais jamais imaginé que Madagascar, ils allaient battre le Nigeria. Je te suis sincère.
Non,
et ils ont fini première du groupe.
Nous non plus, hein, Carlos.
Hein?
Nous non plus.
Oui, oui, mais c'est pour ça que c'est beau des fois de voir des différents footballs, parce que quand on ne connaît pas, pour parler après avec connaissance.
Oui. Bon, Patrick Juillard, je ne vais pas vous demander si vous regardez, ouais, ni Alejandro Valente.
La CAN est en pause, mais il y a certaines équipes qui sont en pause depuis le début, hein, comme la Tunisie, par exemple.
Oui, ça va très mal du côté de la Tunisie,
d'ailleurs.
Ils sont
passés, on ne sait pas comment.
Mais... Oui, Eric Mamrut nous racontait aujourd'hui que l'adjoint de...
Le préparateur mental a pris la porte
Giresse,
en pleine CAN, oui, absolument.
Voilà, exactement, et qu'il y a un malaise, en tout cas, du côté de ces aigles de Carthage.
Renvoyé par la fédération.
Oui, en pleine compétition, alors qu'ils sont quand même qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc ça va pas très bien.
C'était quelqu'un de l'staff de Giresse.
Oui, d'Alain Giresse.
Comment il s'est fait?
On lui reproche de s'immiscer dans les choix du coach et surtout d'avoir mal préparé l'équipe, puisque c'était son boulot.
Ça veut dire que Giresse, il était d'accord.
Je sais pas.
On n'est pas sûr, Carlos.
C'est
jamais très clair dans les fédérations là-bas. Et vous, Alejandro, qu'est-ce que vous diriez sur ce premier tour que vous avez regardé avec beaucoup d'attention, vous?
Que j'ai regardé avec beaucoup d'attention. écoutez, moi, je me suis plongé dans cette histoire des meilleurs troisièmes parce que c'est une nouveauté à la CAN, même si on la connaissait à la Coupe du Monde à une époque et dans d'autres compétitions comme la Coupe du Monde féminine.
Il nous faisait des tableaux, Alejandro, parce qu'il est mathématicien au départ et ça a servi. Là, c'est très utile.
sait tout faire, c'est pour ça qu'il est cher.
J'ai essayé de suivre ça et j'ai été assez impressionné par la remontada de la République démocratique du Congo.
En un seul match, 4 buts marqués, passer de moins 4 à 0 en différence de but et ils ont presque assuré grâce à un match.
Voilà. Et pour doubler à la fin, l'Afrique du Sud et les Kenya et donc se qualifier.
En tout cas, ce qu'on peut dire peut-être, Patrick Juillard, pour terminer, c'est qu'on n'a pas eu véritablement de surprise dans cette CAN. Alors, hormis évidemment Madagascar, mais il n'y a pas eu par exemple, encore de grandes équipes au tapis, quoi.
Voilà, il n'y a pas de surprise, puisqu'avec le jeu des meilleurs troisièmes, c'est plus difficile quand même de sortir dès le premier tour. Enfin, il faut vraiment être encore plus mauvais pour sortir dès le premier tour. Surprise, non, mais bonne surprise. Pour moi, Madagascar et l'Ouganda sont vraiment deux belles équipes qui non seulement gagnent des matchs, mais c'est pas à l'arraché, c'est pas des buts de raccro, c'est en imposant leur jeu, en étant meilleurs que leurs adversaires. Et même l'Ouganda contre l'Égypte, pourtant l'Égypte c'est une équipe sûre d'elle et dominatrice, comme dirait l'autre, même ce match-là, l'Ouganda aurait pu avoir un meilleur résultat, voire l'emporter avec un peu plus de réalisme. Donc c'est une vraie bonne nouvelle pour le foot africain, ça apporte un vent de fraîcheur.
En termes de niveau, Patrick, on est sur une compétition relevée, pas relevée?
Il y a eu un peu moins de buts qu'au premier tour en 2017, mais c'est aussi à cause de cette histoire de meilleur troisième, parce qu'il y a eu beaucoup de calculs, parfois dès le deuxième match de poule, mais moi je trouve que c'est un peu plus homogène, il n'y a pas, à part peut-être le Burundi et la Tanzanie, il n'y a pas d'équipe vraiment en dessous, et tactiquement c'est plutôt mieux en place qu'à une époque.
Alors le meilleur troisième à l'Euro 2016 avait aussi un peu affaibli la compétition.
Il avait gagné.
Le Portugal était arrivé en finale et l'avait gagné au titre de, après avoir fait 3 nuls.
Ça donne beaucoup d'espoir à la Tunisie donc.
Ou au Bénin.
Aussi.
Les huitièmes de finale, les matchs reprennent vendredi. Donc d'ici là, on reviendra sur cette Coupe d'Afrique des Nations, chers auditeurs. Pour l'instant, on a décidé de prendre honneur à notre invité du jour, Carlos Bianchi. On prend la destination sud-américaine.
Tu dors?
Voici l'un des matchs les plus prestigieux au monde, le Classico donc sud-américain. Entre le Brésil et l'Argentine, la demi-finale de la Copa América.
Daniel Alves abriu bonito, mete pro gol, tentou o cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Vambora, Gabriel! Vambora, Gabriel! Sou mais você! Vambora, Gabriel! Vambora! Olha o gol! Gol! É do Brasil!
Brasil! Se qualifie pour la finale de sa Copa América. Le Brésil remporte le Classico sud-américain 2-0 face à l'Argentine grâce à Gabriel Jesus, grâce à Firmino, grâce à un immense Dani Alves.
Les buts de cette Copa América en sont, grâce notamment à nos confrères de la télévision brésilienne, et puis en images dans le studio. Alors si vous nous voyez, ou peut-être pas encore, sur le Facebook Live, aujourd'hui nous sommes filmés, mais il y a des petits soucis techniques et ça va vite se résoudre. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir nous voir, et voir surtout toutes les illustrations qui nous entourent. En tout cas, dans ce stade maudit, où ils avaient été sortis en demi-finale de leur Copa, de leur Coupe du Monde en 2014 à Belo Horizonte, les Brésiliens ont brillamment décroché leur billet pour la finale de leur Copa América. Alors grâce à cette victoire sur leur archi-rival quand même, hein, Alejandro Valente, ils sont rivaux.
Ils
sont pas amis. Le voisin qui conteste le leadership régional. Est-ce que c'est une victoire méritée pour vous, Carlos, qui vous êtes levé à 2h30 du matin pour assister au match et qui ne s'est pas endormi devant?
Et je suis sincère.
Vous avez dormi?
Non. Le Brésil, il a gagné le match. Disons, sur le fond de jeu, il joue mieux Brésil que l'Argentine. L'Argentine n'a pas un grand fond de jeu. Parce que c'est pas un milieu terrain équilibré. Paredes, c'est un demi, mais pas un demi défensif. C'est pas un Casemiro. Et Paul et Acuña, ils sont deux milieux terrain, mais qui jouent vers les ailes au lieu de jouer à l'intérieur. Alors, ça change beaucoup. Mais Brésil, il a gagné parce qu'il a réussi deux fois à faire la différence, parce que le gardien argentin, il n'a pas arrêté un seul ballon. C'est incroyable. Par contre, l'Argentine, il a mis un ballon sur le traversal, un ballon sur le poteau, et le gardien, il a fait deux, trois arrêts très intéressants. Offensivement, l'Argentine était meilleure, mais il n'a pas arrivé à marquer. Par contre, les deux fois que le Brésil, il a fait la différence, ils sont arrivés à convertir. Mais c'était tout. Ce ne sont pas des grandes équipes, aucune des deux. Mais je pense que, comme, n'oublie pas que je t'avais dit qu'il allait être champion.
Oui.
Je crois et je maintiens encore que le champion, pour moi, ça va être Brésil, parce qu'il y a des joueurs qui, à un moment donné, ils arrivent à faire la différence.
Là,
pas tellement
Gabriel
dans le jeu,
Jesus,
mais individuellement. Mm-hmm. Quand on voit le deuxième but qui marque le Brésil,
Firmino.
Il y a deux contres qu'il arrive à réussir. Jésus, il fait un crochage, il donne le ballon à Firmino, mais c'est individuel, ça. C'est pas collectif. C'est pas, disons, le football qu'on aime nous voir quand on voit jouer Brésil.
Patrick Juillard.
Ouais, moi j'ai trouvé surtout que le Brésil était plus équilibré. Mm-hmm. Carlos l'a dit, je trouve que le milieu de l'Argentine part un peu dans tous les sens, mais n'est pas forcément présent au cœur du combat, c'est-à-dire vraiment dans l'entrejeu, le cœur de l'entrejeu. Le Brésil me semble aussi mieux préparé physiquement, parce qu'il faut pas oublier que les joueurs qui composent cette équipe sont arrivés dans des états de forme assez disparates. Et là, je trouve que globalement, ils sont bien ensemble.
Ils avaient commencé tôt leur
même un joueur comme Alves, par exemple, je trouve qu'il s'est bien refait la cerise, comme on dit. Il est transfiguré par rapport à ce qu'on a pu voir cette année avec le PSG. Et puis, les individualités ont été les plus fortes. Gabriel Jesus, pour moi, qui est un joueur parfois un peu décevant, un peu intermittent, là, il a été vraiment au pic de ce qu'il peut faire. Il a réussi un des meilleurs matchs de sa carrière sur une demi-finale de Copa América. C'est plutôt un moment bien choisi.
Dominique, vous qui étiez en 2014 aussi au Brésil, on se souvient de ce drame national éliminé d'une compétition qu'ils espéraient être la leur. Là, on pouvait espérer aussi, Carlos dit, ils ont sans doute un meilleur jeu, une meilleure équipe sur le fond, mais il y a aussi le contexte. Ils jouent à domicile, ils sont portés par ça.
Et ils ont réussi avec Tite à avoir une cohérence depuis quelques années. Alors, ils se sont fait sortir l'année dernière en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Belgique, mais on sent quand même qu'il a rétabli une forme de non pas d'autorité mais de crédibilité, je trouve, qu'avait perdu le Brésil après le 7-1 à domicile, où là je me suis dit ça va mettre des années, ça va mettre c'est un traumatisme, c'est quelque chose de violent.
Il en reste des traces quand même, apparemment.
Ouais, mais bon, alors
moins dans l'équipe que dans la population.
Voilà, à la Coupe du Monde, Neymar se roulait par terre, bon, c'était un problème. Là il est pas là, peut-être que ça joue aussi, hein, peut-être que faut peut-être mieux jouer sans Neymar, ça rejoindra peut-être un sujet après.
Dans le sens de Dominique, par rapport à la CAN, hein, les équipes où les stars polarisent trop l'attention ne sont pas bonnes pour l'instant.
Ouais.
Et donc, moi, ce qui m'a catastrophé hier, c'est le niveau de la défense argentine, du bloc défensif argentin. Alors certes, sur le premier but, il y a un espoir, entre guillemets, de Dani Alves, un petit pont, un décalage pour Firmino avec un centre pour
Gabriel Jesus.
Et on inverse sur le deuxième but,
c'est Firmino qui marque
voilà, sur service de Gabriel Jesus qui, comme le dit Carlos, a un contre-favorable ou un ou deux contre-favorables, mais à chaque fois on voit que la défense est complètement dépassée sur des cas d'école. Le deuxième but, c'est un contre alors que l'Argentine avait le ballon. Tu peux pas je comprends bien que tu dois égaliser, mais tu peux pas te laisser te découvrir comme ça sur 70 mètres.
Tu sais que excusez-moi Dominique, mais tu sais que le premier but, il démarre avec un petit pont qui fait Coutinho par hasard à Paredes, qui n'a pas voulu faire ça, et le ballon, il est passé entre les jambes à Paredes.
Ouais.
Après, le ballon, il est contré, il s'élève, il le prend à Alves, il le fait un chapeau, nous on l'appelle chapeau ça.
Un sombrero.
Un sombrero, il le fait un sombrero à Paredes, et après il donne le ballon et il centre.
Mais encore une fois, l'Argentine, alors je fais à chaque fois le parallèle avec la Coupe du Monde, parce que c'était il y a un an, mais elle a finalement perdu que 4-3 contre la France, le futur champion du monde, mais parce qu'elle a un niveau défensif ridicule, l'Argentine, parce que finalement la France, elle a tremblé avec ce troisième but.
Bien sûr.
Et le match durait 5 à 10 minutes de plus.
On sait pas.
Messi, à chaque fois, qui était pas génial, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il créait du danger. Ça peut très bien faire 4-4, il y a une balle de but à la fin. Et pourtant, c'est le futur champion du monde, mais c'est parce que ils sont nuls défensivement. Ils sont vraiment mauvais, quoi.
Alejandro, c'est ce que vous disiez ce matin quand on en parlait. Ils sont surtout très lents.
C'est une défense effectivement lente, à part Foyt, le jeune arrière droite qui a été un peu, c'est comme Pavard, c'est un défenseur central qui a été placé à ce poste et qui est plutôt intéressant, mais globalement l'équipe d'Argentine n'a pas d'assise défensive, que ce soit au milieu ou derrière.
Le milieu ne protège déjà pas bien la défense.
Voilà, donc c'est un gros problème, mais je pense que l'Argentine est en plein chantier, en reconstruction. Scaloni a changé constamment d'équipe depuis le début de sa mission. On ne sait pas si la mission va être prolongée au-delà de cette Copa América, car la pression est forte quand même et il y a de la déception malgré finalement une campagne qui est relativement correcte.
Oui, bon, perdre
contre le Brésil, c'est pas déshonorant. Après, dans l'ensemble, je trouve que cette Copa América n'a pas un très bon niveau. Et d'ailleurs, on voit les résultats sont souvent surprenants parce que les équipes sont très proches les unes des autres. 3 des 4 matchs de quart de finale se sont joués au tir au but. Donc c'est quand même assez étonnant.
Tu sais, quand on répète les compétitions, comme on sait maintenant tous les ans, ça joue la Coupe América, c'est pas bien.
C'est pas possible, parce que les équipes n'ont pas le temps de travailler.
Et les joueurs, comme ils font, ils viennent d'une saison d'Europe, parce que la plupart, ils viennent d'Europe. Ils sont jamais des vacances.
Ouais, ça reprend la saison d'ailleurs en Europe et il faut qu'ils le sachent. Dominique, est-ce que vous avez apprécié ce papy qui a fait de la résistance hier, comme nous disait David Finzel ce matin, Dani Alves, 36 ans, qui vient d'être remercié, on va dire gentiment, mais par le Paris Saint-Germain et qui là était tout virevoltant. On aurait dit qu'il avait une nouvelle jeunesse.
Alors peut-être comme Alejandro dit que le niveau n'est pas très élevé, c'est peut-être pour ça qu'il brille, Dani Alves. il est capable. Je l'ai vu toute la saison de fulgurance, à l'image du match aller à Manchester où il a été extraordinaire avec le Paris Saint-Germain, et puis d'autres matchs où il est passé complètement au travers. Il a 36 ans. Ce que j'admire, c'est qu'il a eu une grave blessure en finale de la Coupe de France 2017 et qu'il est quand même 2018 et qu'il a empêché d'aller à la Coupe du Monde, et qu'à son âge, il a vachement bien récupéré, ce qui est quand même c'est beaucoup plus dur à 35 ans, 36 ans de récupérer d'une blessure au genou, des ligamentaires, que quand on a 23 ans, déjà il y a des doutes. Lui, il est quand même très très bien revenu. Il a un volume de course qui est toujours aussi impressionnant, une technique au-dessus de la moyenne, mais ça, quand t'as la technique, tu la perds pas. Mais parfois, il a complètement des absences, ou tactiques, ou défensive. Toute sa carrière, il aura été évidemment un meilleur contre-attaquant que défenseur. Parce que après, on quand on joue au Barça, on n'a pas vraiment des tâches défensives.
Il est puissant des fois. Il joue comme facile. Il veut jouer trop facile. Il y a des fois qu'il fait
des erreurs.
Non, il fait des erreurs parce qu'il veut jouer trop facile. Comme techniquement, il est tellement doué. Alors lui, il croit que c'est tout facile. Alors quand il arrive un moment donné de trouver quelqu'un en face qui ne te laisse pas faire ce que tu veux, à la fin, tu payes.
Oui. Patrick ?
Oui, moi j'ai apprécié, comme l'a dit Dominique, son regain physique surtout. Je ne pensais pas qu'on le reverrait à ce niveau après une saison
en plus,
difficile au PSG. En plus,
nommé capitaine de l'équipe brésilienne.
Que ce soit sur le plan mental ou sur le plan physique. Et là, il est vraiment, il a du peps, il est bien.
Il a peut-être aussi envie de négocier un nouveau contrat et c'est l'occasion de se mettre en valeur.
Il se montre. Après, on ne peut pas dire aussi qu'il était extrêmement gêné dans le couloir droit, parce que l'Argentine, côté gauche, c'était quand même pas exceptionnel. Donc il a eu des latitudes pour s'exprimer, mais il l'a très bien fait. Moi, j'ai apprécié son match.
Et ça rejoint encore un autre débat qu'on aura après. C'est quand même un joueur qui sort beaucoup, tout le monde le sait. Il a une hygiène de vie qui ne correspond pas forcément aux standards du haut niveau. Et pourtant, à 36 ans, capitaine du Brésil, elle réussit une bonne Copa.
Certains joueurs peuvent faire des grandes carrières en étant des noceurs. Et je n'apprendrai pas à Carlos que Jules Bocandé, par exemple, était un gros fêtard. et que ça l'empêchait pas de briller sur les terrains.
Patrick,
le samedi soir.
Il vaut mieux aller se coucher quand même.
Le regretter, Jules Bocandé.
Je vais te raconter une histoire. Tu peux raconter une anecdote? C'est bien. Bon, quand j'ai pris l'équipe de Nice, il y avait 16 matchs qui se jouaient. Nice était dernière. Et la première des choses que je fais, parce que le capitaine de l'équipe, c'était Jean-Philippe Rohr, celui qui était champion olympique. Et moi, je levais le bracelet de capitaine et je lui dis, Jules, tu as un exemple à suivre. Parce que je connaissais la vie de Jules.
Vous l'avez obligé à être sérieux.
Un petit peu sérieux, d'être un exemple.
Vous êtes diplomate.
Et je lui mis le bracelet de capitaine.
Le brassard, excuse-moi,
bracelet.
Bracelet, c'est pour les prisonniers, Carlos.
Ou pour les filles. En tout cas, merci. Lionel Messi ne disputera donc pas de troisième finale consécutive en Copa América, avec, on s'en souvient, de finale perdue face au Chili. Mais en plus, hier soir, du côté sombre qu'on a vu de ce numéro 10 quand il a quitté la pelouse, on a vu devant les micros de nos confrères une pulga, un joueur en tout cas, qui criait à l'injustice. Écoutons-le, Lionel Messi.
Le deuxième but intervient alors qu'on a oublié un pénalty au début de l'action. Il y a aussi le pénalty sur Nicolas Otamendi. Ils se sont fatigués pour siffler des pénaltys discutables et aujourd'hui, ils n'ont même pas été voir la VAR. C'est incroyable. Ça a été comme ça durant toute la rencontre. Au moindre contact, il y avait faute pour eux. On a pris des cartons, eux, jamais. Ça te sort un peu du match. Tu te dis que l'arbitre n'est pas juste. Ce n'est pas une excuse. J'espère que la Conmebol fera quelque chose pour ce genre d'arbitrage, parce qu'on a tout donné pour gagner. Mais je pense que c'est compliqué parce que le Brésil contrôle tout. On n'a rien à se reprocher.
Vous voyez, car Alejandro, hein, ils sont pas si amis. Le Brésil contrôle tout, selon Messi.
Oui, là, je pense que c'est un discours quand même qui tient un peu de la com à destination du public argentin, où on lui reproche souvent une attitude un peu trop effacée. On l'a vu à cette Copa chanter l'hymne de façon très visible, prendre la parole en public et devant les micros pour fustiger l'arbitrage ou pour commenter divers aspects de cette compétition. Donc, je pense que dans tout ça, il y a certainement des conseils qui lui ont été adressés afin de mieux correspondre à l'image que les Argentins se font du capitaine de leur équipe nationale.
C'est un discours qu'il entend pendant 38 journées de la part de ses adversaires de
Absolument,
Barcelone.
Oui.
Les adversaires de Barcelone finissent le match, ils disent à chaque fois que l'arbitre les a... Oui.
Il a eu le temps d'apprendre des éléments de langage.
Il a eu 38 matchs pour ce...
Mais ce qui arrive très
Carlos,
souvent.
Carlos, il y avait ou pas pénalty
Pour moi, l'Argentine, il ne perd pas par l'arbitre. Il perd pas par l'arbitre. Il perd parce qu'il concrétise pas les occasions qu'il a eues et les autres, ils se les ont mis. Mais ça, c'est la phrase qu'on a toujours contre les équipes plus fortes. Au Real Madrid, il était champion parce que les arbitres arbitraient pour eux. Paris Saint-Germain, il est champion, il peut pas le dire parce qu'il est champion avec 20 points d'avance. Mais si tu es champion avec 2-3 points d'avance seulement, ils vont dire oui, mais ils ont gagné ces matchs-là, il y avait hors-jeu, il n'avait pas hors-jeu, il y a un penalty. Les équipes les plus fortes, tu vas en Italie, et tout le monde, il dit ça à la Juventus.
Bien sûr.
Il est champion pour quelle raison? Parce que les arbitres, ils sont avec.
C'est vieux comme le football. On a toujours dit ça.
Finalement,
on a toujours dit qu'on favorisait et l'équipe la plus forte et l'équipe qui reçoit. Moi, j'ai toujours entendu de toutes les Coupes du Monde, de tous les Euros, de toutes les Copas, de
les
toutes les Cannes.
Les équipes à domicile, on l'a entendu pendant la Coupe du Monde.
Il y a un avantage un peu inconscient pour l'équipe qui reçoit.
Mais Messi peut être puni pour ce qu'il a déclaré.
Oh, il faut pas. Il a le droit de s'exprimer.
Ah non, mais c'est pas moi qui vais le punir.
Ça serait dommage. J'espère que la Conmebol a d'autres chats à fouetter que ça.
Les choses sont beaucoup plus importantes.
Théoriquement. Alejandro, juste une dernière chose avant de clore ce chapitre. Est-ce qu'on verra Messi à la prochaine Copa América? Alors, on peut se dire, peut-être, il a déjà 32 ans et tout ça. Mais surtout, on se dit, c'est dans longtemps la prochaine Copa América. Non, pas du tout. Il y en a une l'année prochaine, c'est-à-dire, en gros, maintenant, il y a une Copa América, c'était tous les 2-3 ans, maintenant, c'est tous les ans.
À chaque
c'est
fois,
plus simple.
Trouve une excuse. Là, on avait eu la Copa América en 2015, ils ont décidé en 2016 en faire une autre parce que c'était le centenaire de la Copa América. Là, théoriquement, on a décidé de suivre l'Euro, donc on va jouer les années paires où il n'y a pas Coupe du Monde tous les 4 ans, la Copa América, comme on est en 2019, il aurait fallu attendre 2024, ça faisait trop, donc on en fait une autre en 2020, et puis on verra après, alors ce sera une Copa América un peu différente, avec deux groupes, zone nord, zone sud, et les 4 meilleurs de chaque groupe qui vont se croiser.
Ils vont jouer dans 2 pays différents.
Oui, le nord en Colombie, le sud en Argentine.
Il y aura toujours le Qatar ou
Colombie.
Pas
toujours. Il y aura l'Australie.
Si, le Qatar a été invité pour 2 éditions.
Et l'Australie sera invité.
Et la finale, ça joue en Colombie.
L'Australie, après avoir été rangée dans la zone Asie pour les qualifications du mondial, maintenant elle joue la Copa América. Donc vive la mondialisation.
Pour moi, Messi, comment ça va jouer en Argentine? Je pense qu'il va jouer la Coupe América.
Il sera encore là, oui.
Quand on sait que c'est la dernière chance qu'il a de gagner un titre.
Il ira jusqu'en 2022, il ira au Qatar, justement. Tiens. On va passer à notre chapitre justement Neymar, mais juste avant je voulais vous dire qu'il y a en fait un problème général sur les pages Facebook et Twitter. C'est pour ça que vous ne pouvez pas nous voir en direct, mais vous nous verrez si vous en avez la patience.
Vous êtes sublime, vous êtes magnifique à la radio
aussi,
et
avec
vous êtes
votre
sublime
jolie
à la télé. Franchement, là, les auditeurs, ils perdent quelque chose, et les téléspectateurs
mais
aussi.
Ils vont courir sur notre page Facebook à la sortie de l'émission, ils pourront voir la partie enregistrée. Allez, on continue. Dominique, c'est pour vous ce sujet, on va parler de Neymar.
Ah oui, on le connaît.
Là, Célestin a donc appris, on vient de le voir, à vivre sans Neymar. Comme le PSG finalement, n'est-ce pas Dominique?
Exactement.
Alors ce PSG...
Alors au PSG c'est plus long. Hein.
Devra-t-il s'accoutumer définitivement à vivre sans Neymar? La presse française comme espagnole épilogue ces temps-ci sur ce possible aller-retour de la star brésilienne. On va d'abord prendre la température du côté de Barcelone, si vous le voulez bien Dominique, avec François David.
Ah, je le connais aussi.
Vous le connaissez aussi parce que l'époque de Barcelone, c'était l'époque dorée.
Al salto de cabeza Mathieu, contundente, ganándole la pelota a Celso. Atención, ese envío, no hay fuera de juego. Neymar en el mano a mano, Messi por el otro lado. Neymar, Neymar para Messi, Neymar. Messi, segundo de Leo Messi.
Ah, le bon temps de la MSN, n'est-ce pas? De Messi, de Suarez et de Neymar. Neymar se rend-il compte qu'il a fait une bêtise? En tout cas, dit-on là-bas, le Barça le veut, les supporters l'acceptent, Messi le demande. François David, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Est-ce que cette folie d'un aller-retour, d'un retour de Neymar du côté du Barça, lui qui est parti, c'est une moindre chose de dire dans des mauvais termes et surtout en claquant la porte, est-ce que c'est envisageable que le Barça lui ouvre de nouveau la porte et si oui, pourquoi?
Bah, c'est plus qu'envisageable. On y va tout droit, hein, un retour de Neymar au Barça, ce qui paraissait incroyable ne serait-ce qu'il y a 6 mois. Ben là, c'est en train de prendre forme petit à petit. Alors, c'est très compliqué. Dominique est là pour vous en parler du côté du PSG. Moi, du côté du Barça, on va voir ce qui est possible de faire. Ce qui est sûr, c'est que aucun club ne veut perdre la face, à commencer par le Barça, parce que le Barça a quand même pris un sacré camouflet il y a 2 saisons. Et Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, lui, n'était pas du tout enclin à revoir Neymar du côté du Barça. Les supporters, il y a quelques semaines, pas du tout. Là, c'est en train, petit à petit, de changer la tendance. Mais c'est le vestiaire. C'est le vestiaire du Barça, Messi en tête, qui a voulu, qui a fait pression, une pression énorme sur le board du Barça. Et ben, petit à petit, l'idée fait son chemin.
Mais pourquoi Messi le veut-il à ses côtés pour mieux jouer?
Ah ben, de toute façon, quand il y a un joueur qui est considéré comme top 4 mondial, un joueur qui était un ami en plus... Messi était l'idole de Neymar, un petit peu son petit frère. Il y a des liens sentimentaux qui se sont faits autour des 4 ans qu'a passé Neymar au Barça. Et Messi le veut absolument, et Luis Suarez aussi. Hein, Luis Suarez qui a besoin aussi des passes de Neymar pour briguer. Il n'a pas fait une grande saison, Luis Suarez. Maintenant, il va falloir voir aussi comment on s'articule avec l'arrivée sûre et certaine de Griezmann la semaine prochaine, on en reparlera. Mais en tout cas, oui, moi je confirme à 100% que le Barça s'est positionné sur Neymar. D'ailleurs, le vice-président Jordi Cardener l'a annoncé publiquement la semaine dernière, ce qui a été quand même un électrochoc ici, qu'un dirigeant du Barça affirme que Neymar veut revenir. Donc on est prêt à voir ce qui va se passer, mais ça va être un feuilleton ou pas, ça peut être assez rapide. Comme ça peut traîner en longueur.
Alejandro, vous qui connaissez si bien aussi le Barça, pourquoi ce joueur veut se réfugier, on va dire, du côté de Barcelone?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, à Barcelone, ça s'est passé beaucoup mieux que depuis qu'il est à Paris. Donc, quelque part, il doit se dire...
Mais ça se passait beaucoup mieux, il n'était pas numéro 1 en tout cas.
Il n'était pas numéro 1, mais il était quand même numéro 2. Il était à l'époque considéré comme un candidat potentiel au Ballon d'Or. Il évoluait aux côtés des Messi et il s'entendait très bien avec lui.
Il
est plus jeune que Messi, donc quelque part, à un moment ou à un autre, il envisageait de prendre la relève. Puis il faut se rendre compte que son image a souffert de son transfert à Paris, parce que Paris n'a pas forcément une très bonne image à l'étranger. Ici, on ne se rend pas compte, mais par exemple en Espagne, quand vous parlez
de Paris, le Paris Saint-Germain.
Oui, du Paris Saint-Germain. Quand vous parlez du PSG, c'est comme si on vous disait je vais aller jouer en Chine ou je vais aller jouer aux États-Unis. Quoi, les gens voient une opération plus financière qu'un intérêt sportif. Le PSG n'a pas réussi à créer l'image d'un club qui peut représenter un plus sportif comme peut l'être Manchester City par exemple ou la Juventus. Aujourd'hui, c'est comme ça malheureusement. Et Neymar se rend compte aujourd'hui que son image a souffert aussi de ce transfert.
Dominique, vous avez l'air accablé.
Non, mais comme le dit Alejandro, il y a plusieurs raisons. Il y a une adaptation à la France qui ne s'est pas faite. Il y a un mauvais karma. Il est venu de Lille depuis 2 ans. Il s'est blessé 2 fois au 5e métatarse. C'est le petit doigt de pied. Donc ça, c'est quand même assez rare de se faire 2 fois la même blessure.
Mais c'est pas de la faute de la France.
Non, mais ça se passe à Paris. Il y a eu un conflit entre les médecins du PSG et le médecin du Brésil pour savoir qui devait l'opérer la première saison. Ça a recommencé la deuxième année. Il y a une histoire qui est en train de tout changer du point de vue du Qatar, c'est les accusations de viol d'une Brésilienne qu'il a rencontrée sur Instagram. C'est-à-dire que pour le Paris Saint-Germain, c'était pour le Qatar, qui est actionnaire du Paris Saint-Germain, Neymar, c'était un trophée, c'était comme s'ils avaient gagné une petite Ligue des Champions. Maintenant qu'il est accusé de viol, c'est quand même un pays, c'est un émirat
rigoriste,
religieux, constitutionnel, c'est une sorte de monarchie constitutionnelle fondée sur la religion. C'est très choquant pour eux d'apprendre que Neymar, il va ivre dans une chambre, au-delà de ce qui s'est passé après, puisque c'est entre quatre murs et très compliqué de démêler le vrai du faux, de savoir ce qui s'est passé avec cette jeune dame. Donc, elle l'accuse de viol. Ça, pour le Qatar, c'est vraiment... En termes d'image, ça les salit.
C'est l'élément de trop.
C'est ça qui fait qu'ils ouvrent la porte. Plus le fait que, en partant pour la Copa, il leur a dit qu'il voulait partir du Paris Saint-Germain. Et ils se sont dit quoi ? Nous, ça fait 2 ans que t'es là, ça fait 2 ans qu'on t'a que 6 mois sur 12, parce que l'autre moitié du temps t'es blessé.
Mais il le paye 12 mois sur 12.
Et il le paye 12 mois sur 12, 37 millions d'euros nets. Ça leur revient à 95 millions d'euros, eux, chargés, avec des cotisations sociales et patronales. Donc chaque année, ils sortent 95 millions d'euros pour Neymar. Et ils n'ont que 6 mois pour jouer contre Dijon et Guingamp. Mais quand il faut jouer contre Manchester ou Real Madrid, là, il n'y a plus personne. Or, ça reste un joueur exceptionnel, un footballeur de génie.
Mais alors,
il y a d'autres choses. Hein. Il y a le fait que dans le vestiaire, il n'a que 2 copains, c'est Verratti et Mbappé. Le reste, là, avec le départ de Dani Alves, il s'entend pas avec Areola, Kimpembe.
Il s'entend peut-être avec les autres Brésiliens quand même, Thiago Silva, Marquinhos.
Pas plus que ça. Eux, ils font allégeance parce que... Si vous voulez continuer à être en sélection brésilienne, vous devez dire du bien de Neymar. Vous n'allez pas commencer à dire ce que vous pensez de Neymar. Marquinhos, Thiago Silva, ils veulent être appelés partité. Donc tout ça, c'est de langue de bois. Donc il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a le fait qu'ils aiment plus, les supporters aiment plus Cavani que lui. Cavani, tout le monde le connaît. C'est un excellent buteur, tout ça. Mais techniquement, il a aucune affinité avec Mbappé. Il a aucune affinité avec Neymar. Neymar et Cavani se disent à peine bonjour le matin dans le vestiaire. Il a fallu les séparer après l'histoire du penalty gate, un match contre Lyon où chacun voulait tirer un penalty avec Dani Alves.
Ah ouais, on s'en souvient.
En arbitre, en faux arbitre. Voilà.
Donc le PSG,
donc il y a beaucoup de choses qui vont pas. Eh ben non, justement. C'est-à-dire que le Qatar,
leur seul moyen, on se dit, ils vont s'en débarrasser.
Leur seul moyen de sauver la face, c'est de le vendre 300 millions d'euros, c'est-à-dire de faire une plus-value de 80 millions d'euros par rapport à ce qu'ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté 222. Ou alors, c'est de leur vendre à peu près le même prix, 200, et de récupérer un ou deux joueurs. 200 plus Coutinho. Là, vous sauvez un peu la face. Coutinho, il est valorisé à 90, on va dire. 80, 90. Vous le vendez 200 plus Coutinho, ça veut dire que vous l'avez vendu 280. Et là, tout le monde dit, ah bah bravo. Enfin, ou pas, hein. François... Moi, je pense qu'il vaut mieux garder Neymar, le footballeur. L'homme, je sais pas.
Pour quelle raison Barcelone, il va payer autant?
Parce que Messi, pour moi, c'est le vestiaire, est-ce que le vestiaire l'empêchait de partir. Ah bah complètement. Il a encore 3 ans de contrat.
Si le joueur veut partir, on dit toujours qu'il est.
Oui. C'est pas dans leur intérêt de l'empêcher de partir.
On dit toujours qu'on peut pas empêcher un joueur qui veut partir. Mais comme l'a dit Alejandro, il y a une Copa dans encore un an. Alors il peut bouder un mois, il peut bouder en septembre, il peut bouder en octobre, il peut bouder en novembre. Mais à un moment donné, Neymar, il a une carrière.
Pardon.
Il a une carrière.
Lui, il a demandé de partir.
Oui.
Oui, ah, il a demandé de partir.
Oui.
Il veut plus rester.
Non.
Mais je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas...
Il n'a pas dit, non, hein. Mais oui, il l'a fait savoir. Dominique,
mais il faut lire Le Parisien de temps
non,
en temps.
Non, non, non. Mais la presse, non, je ne le crois pas, disons, dans le sens que moi, je vais écouter le personnage qui dit « je vais partir
oui, ». Bon.
Si je ne vois pas les images, moi, je ne crois pas
ça. D'abord, il le dit au club, il ne le dit pas à la télé.
Il l'a
oui,
fait
mais
savoir,
il faut qu'il le dise, il faut qu'il le dise au club.
Oui, mais il l'a dit indirectement, Carlos. Voilà.
Non, 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 ça, je ne le connais pas. Non,
tu sais, Carlos, il y a beaucoup de communication. Son père a parlé pour démentir un rendez-vous avec le recruteur de Barcelone au Brésil.
Qui aurait eu lieu, finalement, au Brésil.
Finalement, ce rendez-vous, il a eu lieu, pas à Barcelone, mais au Brésil. La communication, tu dis ce que tu veux.
François David, le Barça peut-il casser sa tirelire pour faire venir de nouveau Neymar, dont ils n'ont peut-être pas tant besoin dans l'effectif, puisqu'ils attendent aussi Antoine Griezmann?
Bah oui, oui. Bah en fait, c'est un compromis exactement entre le président du Barça, Bartomeu, et Messi, qui est le leader du vestiaire. D'accord, nous on va accepter Griezmann, que toi, président, tu vas absolument faire venir depuis 2 ans, mais tu nous ramènes Neymar. Voilà, c'est un pacte, en fait, entre les deux. Alors, concrètement, non, ils n'ont aucun moyen financier de mettre 300 millions sur la table. Comme le dit justement Dominique, l'idée du PSG, c'est de ne pas perdre d'argent. Donc, on passe de 300 millions à 220 millions, soit en cash, ce qui me paraît moins impossible, mais peut-être 130 millions, 140 millions avec un ou deux joueurs. Là, ça paraît plus raisonnable. En plus, le PSG a besoin de se renforcer. Donc, il y a quand même des bons joueurs dans l'effectif du Barça à prendre. Mais juste aussi une réflexion sur Neymar, c'est que on peut aussi, nous, s'interroger en tant que Français sur le niveau et ce qui se passe aussi dans le championnat de France. Moi, les échos que j'ai de Neymar, c'est que pendant 2 ans, il s'est effectivement ennuyé à jouer contre Guingamp, contre Dijon, contre des clubs qui ont aucun intérêt pour lui. Alors, au début, il a fait ce qu'il pouvait, il a joué, il a bien joué. Et après, il s'est vite rendu compte que après 2 dribbles, il se faisait casser en deux et que les pelouses n'étaient pas bonnes, qu'il s'ennuyait et qu'on ajoute à ça effectivement les blessures, le mauvais karma. Bon, voilà.
Il n'a pas aimé la Ligue 1. Ouais.
Non. Il a détesté la Ligue 1, comme Daniel Alves d'ailleurs. Hein. Daniel Alves a détesté la Ligue 1. Mais on pourrait aussi s'interroger sur notre niveau.
Carlos, vous faites la grimace parce que la Ligue 1, vous la regardez tous les week-ends.
Non, parce que moi. Non, ce que je ne comprends pas, c'est du moment que je ne l'écoutais pas lui le dire, je ne le crois pas qu'il va s'en aller. Mm-hmm. Et en plus, Barcelone, il a Griezmann, il a Dembélé, il a Suarez. Coutinho. Pourquoi faire?
Oui, mais Carlos, pour acheter Neymar, il faut que Barcelone mette, qu'il arrive, qu'il y ait des échanges ou qu'il n'y ait pas d'échanges, que ce soit un transfert sec, il faut que Barcelone mette beaucoup d'argent sur la table. Et pour ce faire, je pense qu'ils vont être obligés de vendre des joueurs. Coutinho, Dembélé.
Coutinho, si, le payer 150
et admettons que Neymar et Griezmann débarquent en même temps. Ah, on peut pas faire de la place à tout le monde. Le Barça va se servir de ces joueurs-là, soit comme monnaie d'échange, soit pour amortir le choc des transferts de deux joueurs.
On élève Dembélé. On élève Dembélé peut-être parce que c'est le moins nommé. D'accord? C'est le seul qui est champion du monde. Mais il arrive Griezmann, champion du monde. Suarez, Messi, il arrive Neymar. Dis-moi, comment tu fais? À qui tu laisses dehors? Tu peux jouer à 3, hein?
Par exemple,
ils tourneront.
À Suarez, tu vas mettre dehors?
Tout le monde dit que Suarez est un petit peu déclinant ces dernières années, ces derniers mois.
C'est très bien.
Mais, et après, tu sais, il reste Malcolm aussi en doublure. C'est pas une honte d'avoir sur le banc de temps en temps un grand joueur. Et tu as remarqué que Barcelone, ces dernières années, après avoir gagné les matchs allés contre la Roma ou contre Liverpool de manière assez conséquente, s'est fait sortir de Ligue des Champions. Il faut peut-être aussi changer quelque chose à Barcelone pour que Barcelone retrouve les sommets de la dernière Ligue des Champions qu'ils ont gagné. Il y avait Neymar sur le terrain, il y avait Messi sur le terrain, il y avait Suarez sur le terrain. Donc peut-être que ça.
Oui, mais là il y a Griezmann.
Il n'est pas encore là, il n'est pas encore intégré.
Oui, mais tu es en train de le payer 120 bâtons.
Et dernière chose, Annie, dans les raisons, oui. Je pense que même s'ils s'entendent bien, et vraiment bien, contrairement à la rumeur, contrairement à la volonté parfois de la presse de les opposer, même s'ils s'entendent bien Neymar et Mbappé, je pense que pour Neymar c'est plus compliqué d'être le numéro 2 finalement de Mbappé qui aujourd'hui est mis au cœur du projet parisien que d'être le numéro 2 de Messi. Je pense que tu peux accepter d'être le numéro 2 du meilleur joueur de l'histoire, d'être le numéro 2 d'un mec de 20 ans qu'il y a 2 ans personne ne connaissait, qui était à Monaco. Je pense que c'est difficile à accepter. Et il voit bien que
On l'avait évoqué dans la radio, les courbes médiatiques.
Mais encore une fois, ils s'entendent, ils s'adorent, ils adorent jouer ensemble. Mais il se trouve
qu'un fait de l'ombre à l'autre.
Bah, il y en a un qui est en train d'avoir une trajectoire ascensionnelle dans tous les domaines. Il est champion du monde, c'était pas prévu. Il est 7-4 au Ballon d'Or en deux participations. Neymar a chuté à la 12e place. Donc, il doit se dire, mais bientôt, il vaudra lui vraiment 300 millions, 400 millions achetés par le Real Madrid, peut-être. Donc, c'est compliqué de se dire, mais moi, je suis venu pour être le numéro un. Et en fait, on me parle toute la journée ou de Cavani, les supporters, ou les médias, ou la France, ou le monde entier, me demande de Mbappé.
Alors, c'est la faute à qui, ça?
Bah, c'est sa faute un peu à lui.
À Neymar seulement.
Bah, bah, oui.
C'est la faute qu'à lui. Hein. Il doit s'y prendre qu'à lui.
François David, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Je pense que ce sera le feuilleton de l'été que mon petit doigt me dit qu'on reviendra vers vous très prochainement pour évoquer le sujet Neymar. Merci beaucoup, François.
Ça va être très, très long, oui, je pense aussi. Au revoir, Annie.
Racontez-nous ça et on reviendra vers vous. Merci beaucoup. Un petit tour, comme on vous l'avait promis, avec Alejandro Valente et nos participants du jour. Nous allons évoquer la belle aventure des Grenadiers d'Haïti.
Full time, and we'll need extra time to decide it. Jimenez to give Mexico the lead. Yes. Calm, cool, collected. Mexico leads.
La Gold Cup, c'est la Copa América de l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Il y a plein de compétitions en ce moment, on vous l'avait dit. En tout cas, nous, on suit les nuits d'exploit des Grenadiers. Et cette musique, c'était eh bien celle de la fête qu'il y a eu dans le quartier de Little Haiti, à Miami, pour accompagner le parcours donc jusqu'en demi-finale de l'équipe nationale d'Haïti. Sur leur dynamique d'une première place de groupe, dont on avait parlé la semaine dernière, ils ont bien failli disputer la finale de la Gold Cup face aux États-Unis. Alejandro Valente, en tout cas, la compétition s'y déroule, si ce n'est un penalty juste dans les arrêts de jeu qui a stoppé leur course.
Oui, parce que bon, jusque-là, ils étaient sur une sorte de parcours de rêve avec plusieurs remontadas, vraiment, mais bon, des adversaires relativement modestes, sauf le Costa Rica qu'ils avaient battu à la surprise générale en phase des poules. Ils avaient battu les Bermudes, ils avaient battu Canada, on pouvait se dire que bon, que finalement c'était pas grand chose. Là, le Mexique, c'est quand même la grande puissance régionale, c'est les grands favoris avec toutes ces stars.
C'est ceux qui gagnent une année sur deux, voilà, en gros,
exactement.
La Gold Cup.
Et pourtant, ce match qui est en plus pour l'avantage du Mexique, s'est déroulé dans l'Arizona, c'est-à-dire dans un stade archi plein de supporters mexicains. Ah non, parce que cette Gold Cup, c'est la plein des stades, c'est pas comme la Cannes, hein. Et les stades sont toujours pleins.
Et donc là, c'était... Et là, plein de Mexicains, bien sûr.
Voilà, plein des Mexicains, donc les circonstances n'étaient pas favorables, avec des joueurs haïtiens qui n'ont pas l'habitude de jouer autant des matchs d'affilée, qui étaient très fatigués, on les a vus à la fin du temps réglementaire, alors qu'ils étaient 0-0, avoir du mal à respirer, cet ordre sur le sol en essayant de récupérer un petit peu. Et pourtant, le Mexique n'a gagné que sur un pénalty complètement foireux, absolument...
Parti pris, Alejandro.
Non, mais regardez les images, il n'y a rien du tout, rien du tout.
L'arbitre, la nationalité?
L'arbitre était de quelle nationalité, je ne sais pas. Bonne question.
Non, j'ai
les
pas
auditeurs
vu, non,
veulent
plus.
Savoir quand est-ce que vous dormez, Alejandro, parce que vous regardez la Cannes. Regardez la Cannes, la Copa, le football, le mondial féminin en France et la Golden Cup. À un moment donné, est-ce qu'il vous reste
et il est dans Radio Foot.
Et alors, est-ce qu'il lui reste 12 minutes pour dormir, peut-être, à peu près?
Mais bon, quand même, ils sont tenus tête au Mexique et c'est quand
ça
même...
Ça marche, mais tu sais, qu'un stade soit plein... par des Mexicains, il ne faut pas s'étonner aux États-Unis. Tu sais combien ils sont?
Non,
plus de 40 millions de Mexicains.
Non, mais ça ne m'étonne pas.
Ils vivent aux États-Unis.
Et vous savez, Carlos, il y a
millions.
Aussi beaucoup d'Haïtiens et que quand ils ont joué
quand
le match précédent.
À New York, par exemple, il y avait beaucoup d'Haïtiens. Oui.
C'était
des
Haïtiens.
Mais à l'Ouest, il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens et il y a beaucoup de Mexicains. Par contre.
Alors, Carlos, ce qui est amusant, c'est qu'on avait entendu, on va le réécouter, c'est le capitaine Dickens Nazon.
Arrondi. Pas Charles, non.
Non, c'est pas Charles. Oui, moi aussi, c'est j'aurais
Dickens.
Eu tendance à dire ça, mais c'est Dickens en plus.
Dickens.
Dickens Nazon, surnommé The Duke. Et comment il a essayé de mobiliser ses troupes?
C'est
racontez-nous
génial.
Si vous aussi, vous avez eu des capitaines qui mobilisaient des troupes de cette manière.
Il n'y a pas de grippe. Allez, les gars, levez le niveau. Levez le niveau. On va maintenant, on va les pousser. Deuxième mi-temps sur la terre. On va pas perdre ce match.
Allez,
vous tous, là, les gars, là. On se regarde tous comme des hommes. Il reste encore de l'espoir. La vie de ma mère, on va gagner ce match, les gars. La tête de Ramon, tu ne fais pas perdre ici. Vous avez compris? Même si on gagne que deux, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. On va sortir avec les trois points aujourd'hui, les gars.
Carlos, on va avoir les trois points, ça on comprend. Il y a quelques mots de créole, alors vous ne comprenez pas tout. Vous avez déjà eu des capitaines
non,
comme ça
capitaine
qui secouent leur équipe?
Non,
on a vu Pogba un peu faire ça.
On peut dire quelque chose à l'équipe, mais parlons avec des mots...
Vous ne leur parlez pas non plus comme ça, vous ne les secouez pas comme ça vos joueurs.
Des fois l'entraîneur, il faut les réveiller. Faut les réveiller les joueurs parce qu'ils s'endorment.
Pogba, pendant la Coupe du Monde, sa phrase favorite, c'était « Moi, je veux retourner manger des pâtes à Istra », les lieux où qu'accueillaient les Bleus en Russie. « Je veux retourner manger des pâtes à Istra ». Donc, c'est ça qui a marché, vous voyez.
À chaque fois, il fallait avoir gagné pour repartir au point zéro. Écoutons le sélectionneur maintenant de cette équipe. C'est un Français, Marc Colla. Il était évidemment attristé de cet incident, comme il a dit en parlant du pénalty, et l'impression qu'on voulait que le Mexique soit en finale. Mais en tout cas, il regarde le futur avec une certaine confiance.
La victoire du Mexique est méritée. Maintenant, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il marque un but autrement que sur cet incident, parce que là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on voulait que ce soit Mexique en finale. Cette défaite met fin à une série de 8 victoires successives. Donc, j'espère qu'à partir de septembre, on va repartir sur une nouvelle série. Je crois que les joueurs, au cours de cette compétition, se sont rendus compte de leurs possibilités. Il nous a manqué un petit peu de fraîcheur, parce que mes attaquants ont beaucoup donné et on ne s'est pas assez créé d'occasion dans cette partie pour marquer un but. Donc on a encore du travail, mais je dirais qu'aujourd'hui on a des bonnes bases.
Alejandro, il a ce travail de fond, cet entraîneur autour de l'équipe.
Oui, c'est un entraîneur qui connaît bien l'équipe parce qu'il avait déjà occupé ce poste. Il y a beaucoup d'entraîneurs français qui se sont succédés.
Neveu aussi.
Exactement.
Il y a eu Patrice Neveu aussi.
Un passage marquant.
Ce qu'il explique souvent, c'est que depuis quelques années, la FIFA injecte beaucoup d'argent dans les petits pays et que ces moyens supplémentaires ont permis à cette équipe qui était vraiment au ras du sol de faire venir des joueurs expatriés, d'attirer un peu de professionnels qui ne voulaient plus venir jouer en équipe nationale. Et peu à peu, ces mélanges entre ces professionnels pas très connus, comme Nazon par exemple, et les joueurs du pays ont fini par prendre. En plus, il y a la multiplication des compétitions. Il y a la Ligue des Nations qui a été créée aussi à la CONCACAF. Bientôt, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de matchs. Haïti vient de passer 8 victoires consécutives avant de s'incliner face au Mexique. Et je pense que c'est
un bon travail.
C'est vrai que ça les aide parce qu'à l'époque où il n'y avait pas toutes ces compétitions intermédiaires, les équipes avaient beaucoup de mal à trouver des adversaires ou même des dates pour les matchs amicaux. Et parfois, elles ne jouaient pas pendant 9 mois, 8 mois et les joueurs ne se voyaient jamais, on ne pouvait pas travailler. Et là, avec un peu de structuration, parce qu'il y a quelques fonds FIFA, effectivement, avec plus de matchs, et on l'a vu en Afrique, pour des pays comme la Centrafrique ou la Mauritanie, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas l'effort qui a été fait en Mauritanie, à Haïti, c'est beaucoup plus rudimentaire, mais malgré tout, ça se structure, et ils ne sont pas forcément plus mauvais footballeurs que les autres, les Haïtiens. Donc,
on les voit ici en larmes, ces joueurs, hier soir.
Rappelons qu'ils avaient joué la Coupe du Monde, Haïti, en 74.
Peut-être qu'on les verra un jour gagner cette Gold Cup, pourquoi pas. C'est la fin de ce Radio Foot International filmé. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. Merci.
Merci
aussi à David Finzel, qui fidèlement m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno était aussi fidèlement à la réalisation de l'émission. Au moyen de vidéo, il y avait Cyril Etienne et Laure Tamperville. Et n'oubliez pas, vous pourrez donc regarder cela sur notre page Facebook. À demain, chers amis. Pour parvenir